David, tu tournes avec moi dans Luc, chapitre 11, deuxième partie du message de la semaine passée. Donc, c'était sur la prière, et on avait vu une première partie, une première raison pour laquelle Jésus prenait du temps à prier, et aujourd'hui, on va voir une deuxième raison. Luc, chapitre 11. À partir du verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et là, il leur a montré une prière, il leur a parlé d'une prière. En fait, il leur a donné le Notre Père. Et la semaine passée, j'ai dit qu'il y avait deux prières de Jésus que les Écritures avaient retenues. C'était le Notre Père et sa prière dans le jardin de Gethsémané. On n'a aucune autre prière que les évangélistes ont retenue. Nous avons ces deux-là, quoi. Le Notre Père et sa prière dans le jardin de Gethsémané. Et on a vu la semaine passée que Jésus avait vécu une vie de prière. Et on avait donné une des raisons pourquoi il avait vécu cette vie de prière, c'est parce qu'il aimait le Père. Et c'est important parce que ça nous interpelle aussi. Et lorsque Jésus parlait avec son Père, c'était comme si rien d'autre existait sur la surface de la terre. Et je trouve que cette demande faite par un de ses disciples est non seulement étonnante, mais qu'elle passe souvent inattendue et en même temps négligée par la plupart de ceux qui étudient ce passage dans Luc chapitre 11. Et on avait vu la semaine passée que quand vous lisez les évangiles, en aucun temps, les disciples vont aller trouver Jésus pour lui demander, « Écoute, enseigne-nous à prêcher. Enseigne-nous à marcher sur l'eau. Enseigne-nous à ressusciter un mort. » Ils vont lui dire, « Écoute, ou encore enseigne-nous à chasser les démons. » Ce qu'ils vont lui demander, c'est « Enseigne-nous à prêcher. » Et moi, ça m'a fait réfléchir cette première raison pour laquelle Jésus priait, parce qu'il aimait son Père. Et c'est vrai que quand on aime, c'est que notre pensée est constamment rivé sur cette personne qu'on aime. Hein, je prends un couple d'amoureux, bon, je suis convaincu que Valentin, il me regarde, je sais pas si il me regarde, ses idées sont toutes là. Il est amoureux, il va se marier bientôt. C'est vrai, hein, Vige? Il va se marier bientôt, et qu'est-ce qui arrive? On a nos pensées, on rencontre notre futur époux, et là, le monde cesse d'exister. Nos pensées, ils sont connectés sur cette personne qu'on aime tant, cette personne qui nous est si chère, et on va penser à elle toute la journée, on va prier pour elle, on va la soutenir, on va dire, « Seigneur, fais attention, protège-la, tu vois où elle est, protège-la à son travail, protège-la sur la route. » Nos prières, ils vont vers cette personne que nous aimons tant. Et Jésus, c'est un exemple qu'il nous donne aussi. Il aimait tellement le Père que ses pensées étaient constamment connectées avec le Père. Et c'est pour ça qu'il priait. Et une des premières interpellations qu'on a eues la semaine passée, c'est combien de temps nous investissons dans la prière. Et parce que j'ai dit la semaine passée que le temps, faut pas se le cacher, le temps que nous investissons dans la prière correspond aussi, je pense, à la mesure d'amour que nous avons pour le Père, quoi. Ça, c'est important. Ce matin, on se parle, on n'est pas beaucoup, on va en profiter, quoi. On va se parler comme si on était deux. Je vous repose hypocrite, quoi. Le temps que nous passons dans la prière, eh bien, ça démontre aussi notre grandeur, la grandeur de l'amour que nous éprouvons pour Dieu. Est-ce que nos pensées, frères et sœurs, sont concentrés sur cette personne qui nous a ramené de la mort à la vie, spirituellement parlant? Ou s'il y a des choses dans le monde qui font en sorte que nos pensées, eh bien, plutôt que d'être portées vers celui qui est notre espérance vivante, eh bien, sont attirées vers des choses mondaines qui nous empêchent, qui nous amènent à oublier finalement toutes ces promesses que Dieu nous a faites. Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, ses pensées étaient concentrées sur Dieu le Père. Et c'est pour ça qu'il priait constamment. Et c'est pour ça qu'il nous a dit « Veillez, priez afin de ne pas succomber à la tentation. » Et j'ai parlé la semaine passée que cette tentation à laquelle Jésus parle, c'est pas la tentation de tomber dans le péché, de commettre un petit péché bénin ou un gros péché vulgaire, mais c'est d'éviter de tomber dans la tentation de tout abandonner, quoi. de tout abandonner. Le monde est puissant pour nous attirer vers lui, mais la parole nous rappelle que l'esprit qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est à l'extérieur. On a besoin de se rappeler, frères et sœurs, que ce qui faisait la force de Jésus, c'était qu'il était constamment connecté avec le Père. Constamment connecté avec le Père. Alors, je ne suis pas ici pour vous accuser ce matin, je ne suis pas ici pour vous condamner. J'ai mon lot de problèmes aussi par rapport à ma vie de prière et avec ma relation avec Dieu. Mais je pense que la parole est là aussi pour nous interpeller, nous ramener finalement. Est-ce qu'on dévie ou si on est toujours sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle? Et est-ce qu'on est toujours concentré sur cette croix, non seulement qui nous a sauvés, mais aussi que Dieu veut sauver à l'extérieur? Il y a encore des gens que Dieu veut rajouter à son royaume et Dieu veut le faire à travers vous. Vous êtes ces personnes choisies par Dieu pour transmettre ce message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et vous n'avez pas besoin d'avoir reçu le don d'évangéliste. Si vos pensées sont connectées avec Dieu, bien, vous avez juste à ouvrir la bouche, et comme il dit dans Ésaïe, Dieu va la remplir, votre bouche. Et Dieu va permettre que vous puissiez témoigner aux gens de cet amour qu'il a pour eux, quoi. Alors ça, c'est extraordinaire. Et la deuxième raison, ce matin, c'est dans Actes chapitre 2, verset 22. Je vous invite à tourner avec moi. Actes chapitre 2, verset 22. Pourquoi Jésus devait prier? Pourquoi Jésus prenait du temps pour prier? Actes chapitre 2, verset 22. J'ai dit aussi la semaine passée, pendant que vous cherchez, que on va lire le passage avant. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme. Permettez-moi de le lire encore une fois. Jésus de Nazareth, cet homme. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant tous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés. Par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Tournez dans Actes chapitre 4, verset 30. Alors, c'est quelques versets un peu plus loin. C'est la première prière des chrétiens qu'on a dans le livre des Actes. Et ce qui est intéressant, je viens de lire Actes chapitre 2, et ils vont utiliser, dépendant de votre version, ils vont utiliser les mêmes termes que dans Actes chapitre 2, verset 22, dans Actes chapitre 4 concernant leur prière. Qu'est-ce qu'ils vont dire? D'abord, verset 29, ils commencent leur prière. « Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et qu'est-ce qu'il dit au verset? « En étendant ta main pour qu'il se fasse... » La même chose que dans Actes chapitre 2, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Dans Actes chapitre 2, on nous dit cet homme, Jésus-Christ, a rendu témoignage par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui. Et là, Jésus n'est plus là. Jésus, il est au ciel. Et les chrétiens, ils sont convaincus que Jésus, quand Jésus-Christ, eh bien, Dieu est encore capable d'accomplir les mêmes miracles qu'il faisait à l'époque de Jésus. C'est ça la prière des chrétiens, hein? « Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Moi, ce que j'aime bien ici, c'est le mot « homme ». Et j'aimerais vous montrer pourquoi il était nécessaire que Christ prie. Frères et sœurs, chaque fois qu'un mouvement attaque le christianisme, qu'un mouvement sectaire attaque le christianisme, la première doctrine que les gens vont remettre en question, c'est celle de la divinité de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et à chaque fois que l'Église est faible dans ses doctrines, la première doctrine qu'on va attaquer dans l'Église de Jésus-Christ, c'est la divinité de Jésus-Christ. Vous parlez aujourd'hui avec les gens, Jésus, il est soit Dieu, il est soit homme, soit le chef des anges, mais il n'est pas Dieu fait homme. Et ça, ça démontre une chose, c'est que l'Église s'est éloignée de la doctrine, de ses fondements doctrinaux qui font la colonne, qui font le pilier de son Église. Et des églises qui étaient évangéliques aujourd'hui remettent en question cette divinité de Jésus-Christ, remettent en question, ben oui, sont vraiment en question la divinité, sont vraiment en question que Dieu travaille à travers Jésus-Christ, eh bien, tout le reste découle, hein, tout le reste tombe, quoi. On remet en question les miracles, on remet en question sa naissance virginale, on remet en question tout ce qui touche au surnaturel, et qu'est-ce que ça fait? Des églises évangéliques deviennent des églises libérales, quoi. La parole de Dieu, c'est pas la parole infaillible et incontestable de Dieu, c'est un livre sacré parmi tant d'autres. Vous pouvez piger dans le Coran, vous pouvez piger dans ça, vous pouvez piger dans les livres sacrés hindous, mais la parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un livre sacré parmi tant d'autres. Tandis que quand on est chrétien évangélique, pas protestant, mais évangélique, hein, évangélique, pas centré sur Dieu, mais centré sur Christ, hein, c'est ça la différence entre le protestantisme et l'évangélique, Christ, centré sur Christ. Dieu, c'est... Dieu, écoutez, les gens peuvent inventer les dieux qu'ils veulent. Hein. Moi, ça me chatouille des fois quand j'entends des chrétiens qui ne parlent que de Dieu, quoi. Notre relation, elle est avec Jésus-Christ. Notre relation avec Dieu, elle passe par Jésus-Christ. Est-ce que Dieu, est-ce que Jésus-Christ est présent dans votre vie ce matin? Est-ce que Christ, vous avez l'impression que Christ est ressuscité, qu'il agit dans votre vie ce matin? C'est important, ça. Et je le répète, c'est ce qui différencie le protestantisme du mouvement évangélique. Christ. La relation avec Dieu, elle passe par Christ. J'aime Dieu. Les gens du monde aiment Dieu. Les gens du monde aiment Dieu. Demandez aux gens s'ils croient que Dieu existe, ils vont se dire oui. Mais si vous leur demandez de définir quel Dieu pour eux existe, alors vous allez avoir une salade spirituelle épouvantable, quoi. Ah ouais. C'est Dieu qui est en moi, c'est moi qui ai Dieu. Ah, Dieu, c'est commencer par une souris. Dieu, c'est ici. Ah, pour les hindous, vous allez dans certains mouvements hindous, ils rendent des cultes aux souris, on vient rendre des cultes aux singes. Dieu, c'est qui? Mais pour le chrétien évangélique, c'est lui qui est passé par une nouvelle naissance. C'est d'abord Jésus-Christ. C'est d'abord Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. La parole nous dit « dont la foi dépend du début jusqu'à la fin ». Jésus-Christ. Et j'espère que Jésus, c'est une personne qui est vivante pour vous. Amen. Amen. Mais, ouais, depuis 2000 ans d'histoire chrétienne, nous avons dû bâtir des murs pour garder cette doctrine à l'abri de leur attaque. Nous avons dû employer les grands moyens, nous avons dû défendre les principes de foi chrétienne parce que c'est notre devoir et c'est aussi notre responsabilité de proclamer que Jésus-Christ est Dieu. Je vous ai dit la semaine passée que quand on était sur la digue, moi j'ai fait 3 semaines, il y en a d'autres qui ont fait 2 semaines, d'autres qui ont fait 1 semaine. Je vous ai dit que quand on parlait de Dieu, il n'y a pas de problème, les gens s'arrêtaient, puis ils écoutaient chanter, ils écoutaient prêcher. À partir du moment où on prononçait le nom de Jésus, les gens, je vous l'ai dit, il y a certains qui auraient pu nous vomir dans la figure, quoi. Le nom de Jésus, il dérange. Oui, il dérange, frère et sœur. Et on fait un compromis quand on essaie de remplacer Jésus par Dieu. On fait un compromis dans notre foi. Prêchez Jésus. Pourquoi ça fatigue les gens, Jésus? Parce que Jésus, c'était pas un hypocrite. Il a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et toi, tu étais perdu parce que tous ont péché. Et si c'était pas de mon amour, je serais jamais venu sur la terre pour te sauver. Ça, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu, hey, Dieu, ça, c'est Jésus. Et Jésus, vous savez, s'il avait écouté ce qu'on entend de la part de certains chrétiens aujourd'hui, s'il n'avait pas voulu être un mauvais témoignage, il ne serait jamais rentré dans le temple avec un fouet pour tout renverser, de peur d'être un mauvais témoignage chrétien. Mais il est rentré, il a tout renversé. Pourquoi? Parce qu'il était connecté avec le Père Céleste. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans nos églises, on a tellement peur d'être un mauvais témoignage qu'on ne dit plus rien, et on ne fait plus rien. Être un mauvais témoignage chrétien. S'il y en a un qui a porté ses culottes et qui est un exemple pour nous, c'est Jésus-Christ. Et il nous demande à son Église aujourd'hui de porter ses culottes aussi et de ne pas avoir peur d'être un mauvais témoignage. Et ce mauvais témoignage, c'est de témoigner qu'on vit et qu'on est né et qu'on vit pour Christ. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Moi, j'aime pas le terme « Église évangélique », j'aimerais plutôt le terme « Église évangéliste ». Parce que c'est la mission première de l'Église. C'est d'aller annoncer cette bonne nouvelle que nous avons reçu de Jésus-Christ. Il y a une chose que nous avons oubliée, que nous ne saisissons plus vraiment bien, c'est que Dieu s'est humilié, qu'il est devenu entièrement un homme tout en restant pleinement Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en devenant pleinement un homme, n'a jamais cessé d'être ce qu'il a toujours été, et il est devenu quelque chose qu'il n'a jamais été. C'est-à-dire un homme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vais le répéter, ça, hein? Dieu, en devenant pleinement un homme, n'a jamais cessé d'être ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un Dieu. Et il est devenu quelque chose qui n'a jamais été auparavant, c'est-à-dire un homme. Là, vous êtes amen à ça? Oui. 100% Dieu, 100% homme. Malgré le fait qu'il a marché sur cette terre en tant qu'homme, nous avons associé chaque œuvre et chaque action de Jésus uniquement à sa divinité. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas vivre dans la sanctification. On leur demande, mais pourquoi tu peux, t'es pas capable d'obéir à la parole? Je suis pas Dieu. Je suis pas Jésus. Moi, je suis pas Dieu. Et c'est pour ça que j'ai lu Actes chapitre 2, verset 22. Jésus-Christ homme. C'est à travers Jésus-Christ homme que Dieu accomplissait ses miracles. À travers Jésus-Christ homme. Je le dis pas, je vous l'ai lu au début. Ah, c'est bien ce que j'ai lu tantôt, hein? Ouais. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme a rendu devant tous témoignage à travers les miracles, les guérisons, les prodiges, les signes qu'il a accompagnés. Jésus-Christ homme. À la question « Comment Jésus a-t-il pu accomplir de si grandes choses? » Vous entendez comme réponse, eh bien, c'est parce qu'il était Dieu. Et c'est vrai, mais ce que nous avons besoin de réaliser, c'est que les Écritures mettent l'accent sur le fait que Jésus a marché sur cette terre en tant qu'homme et que les choses qu'il a dites et les miracles qu'il a accomplis, il les a accomplis en tant qu'homme tout en étant complètement soumis à la volonté de son Père et tout en étant entièrement dépendant du Saint-Esprit. Je suis pas en train d'attaquer la divinité de Jésus, je le maintiens, il était 100% Dieu. Mais c'est à travers son 100% homme que Dieu a fait les miracles à Jésus. Frères et sœurs, quand Jésus dit, vous ferez de plus grands miracles que moi, ça veut dire quoi? Avez-vous pensé à méditer ce verset-là? Hey, ceux qui m'appartiennent feront de plus grandes choses que moi. Il faut le faire pour dire ça. Il faut avoir un certain culot pour dire à des simples mortels, écoutez, tous ceux qui croient en moi feront de plus grandes choses que moi. Moi, ce qui m'a ébahi à la mission cet été, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une conversion. Dans le porte-à-porte, écoutez, c'était comme si c'était la conversion du siècle. Quoi. C'est comme si on évangélisait, mais on s'attendait pas à ce que les gens viennent à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. On devrait être triste qu'il y ait juste une personne cette journée-là qui a accepté le Seigneur, alors qu'on est 15-20 qui sommes partis pour aller rendre témoignage à la personne de Jésus-Christ. Ben non, on est en train de tomber sur le dos, oh, Seigneur, merci, une âme. Hey! Frères et sœurs, le Seigneur, là, on peut se contenter soit d'aller à la pêche, pêcheur d'hommes, avec une ligne, ramasser un poisson, ou lancer le filet, et dire, Seigneur, tu es encore capable d'accomplir des miracles, accomplir des prodiges, accomplir des guérisons, et manifester que Jésus-Christ est avec nous. Seigneur, on lance le filet et on ramasse, Seigneur. Parce que c'est pas nous qui convertissons, c'est toi. Et Seigneur, si dans notre conduite, il y a quelque chose qui t'empêche de faire en sorte que les poissons viennent se prendre dans le filet et qu'ils puissent se rajouter à ton royaume, mets en lumière, Seigneur, ce qui peut empêcher tes enfants de pouvoir pêcher comme toi tu voudrais qu'on pêche. Frères et sœurs, on peut pêcher à la ligne, ça peut durer 20 ans avant qu'on attrape un poisson. On peut lancer le filet. Et voir Dieu qui ramasse, voir Dieu qui remplit nos filets. Pourquoi? Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que le cœur de Dieu, c'est que Dieu veut que tous parviennent à la repentance et que Dieu veut que tous soient sauvés. Avez-vous cette conviction dans votre cœur ce matin? Oui. Hébreux chapitre 2, verset 17, si vous voulez tourner avec moi. Plus difficile à lire en Louis II, mais en français courant, c'est assez clair. Hébreux chapitre 2, verset 17, voici, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, donc 100% homme, afin qu'il soit le grand prêtre miséricordieux et fidèle dans son service devant Dieu pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous reconnaissons cela? Eh bien, Jésus-Christ, le premier de nos frères, devient aussi notre modèle à suivre. Il devient notre modèle à imiter. Parce que là, on ne reste pas les yeux rivés sur le 100% Dieu, on se dit, il était 100% homme. Et l'esprit qui habite en lui, c'est le même esprit que je reçois quand je passe par la nouvelle naissance. Et ce même esprit qui accomplissait des prodiges, des miracles et des guérisons à travers Jésus-Christ, c'est ce même esprit qui habite en moi, dont Dieu veut manifester la même chose. Voilà pourquoi Jésus dit, « Ceux qui croiront en moi feront de plus grandes choses que moi. » La première chose à faire, c'est de prendre cette promesse-là par la foi. Ça, c'est la première chose. Et si on dit, « Ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les autres », il n'y a rien qui va se passer dans nos vies. Il n'y a rien qui va se passer dans nos vies. Frère et sœur, Dieu s'est humilié, s'est incarné pour devenir un homme. Il était tellement, totalement Dieu, mais en même temps, totalement homme. Et en tant qu'homme, il a vécu une vie parfaite. Il a enseigné sa parole qui est parfaite. Il a accompli de nombreux miracles. Il nous a rachetés sur la croix en se soumettant entièrement à la volonté de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais regarder rapidement quelque chose avec vous qui, je crois, nous aidera. Premièrement, je voudrais examiner Jésus-Christ en tant qu'homme entièrement soumis à la volonté de son Père. Il dit dans Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté ou de faire ce que celui qui m'a envoyé veut que je fasse et d'accomplir son œuvre. Moi, je ne peux pas en dire autant pour moi. Je fais encore tellement de choses pour moi. Et il y a tellement de choses que je fais que je ne fais pas pour protéger ma réputation. C'est tellement loin de ce que Dieu me demande de faire. Je serais hypocrite ce matin de rester devant vous et de vous dire que ces paroles prononcées par Jésus sont également les miennes. Mais Jésus pouvait dire, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voilà pourquoi la façon de prier de quelqu'un vous en apprendra beaucoup plus sur lui que sur la façon de prêcher de quelqu'un. Vous pouvez prêcher pour toutes sortes de raisons, mais prier dans le secret, c'est faire la volonté du Père et manger une nourriture pure à la table du Seigneur. Un de nos gros problèmes, c'est qu'on nous enseignait que nous ne sommes pas vraiment comme Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Moi, on m'enseignait ça quand je suis au Seigneur. Hey, t'es pas comme Jésus. Rappelle-toi, t'es pas comme Jésus. T'es un pécheur sauvé par grâce. Encore une fois, je mets au défi de trouver quelqu'un dans les épîtres où on dit qu'un chrétien, c'est un pécheur sauvé par grâce. Paul n'utilise pas ça nulle part. Et si on pense qu'on est un pécheur sauvé par grâce, on va continuer à vivre dans le péché parce qu'on est des pécheurs sauvés par grâce. Mais si on croit que parce qu'on est passé par une nouvelle naissance, on est des héritiers du royaume, on est des prêtres en Jésus-Christ, on est des enfants de Dieu, on fait partie de la famille de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer dans nos vies, quoi. Laissez Jacques Hudon d'un côté de la balance, mettez la loi de l'autre côté dans la balance et effectivement, j'échouerai. Mais il y a une règle encore plus difficile à satisfaire et c'est celle-là que vous devez viser. Celle de mettre Jacques Hudon d'un côté de la balance et de mettre l'homme parfait Jésus-Christ de l'autre côté pour être comparé à lui. Et ça doit être notre objectif, frères et sœurs. Celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour... tourne avec moi, ça vaut la peine. Jean chapitre 2, versets 5 et 6. J'ai eu un gros débat théologique avec ces passages-là à Mission Vacances, mais vu qu'on ne parle pas de théologie ici, que je ne veux pas vous endormir avec la théologie, on va rester sur le domaine biblique. Et on va regarder ces passages-là ensemble. Vous irez voir des commentaires à la maison, sur Internet, si vous voulez. C'est d'ailleurs l'épître qu'on va travailler toute l'année dans l'étude biblique du mercredi soir. La première épître de Jean. « Celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. » Vous voulez savoir si vous aimez Dieu parfaitement? Eh bien, vous avez juste à évaluer si vous obéissez à la parole. Voici comment nous pouvons savoir que nous sommes unis à Dieu. C'est pas moi qui le dis. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Frères et sœurs, ma première question, est-ce que Dieu peut nous demander quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire? Est-ce que Dieu peut nous demander quelque chose que nous sommes incapables de faire? Absolument pas. Et ici, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean? Eh bien, il nous dit, celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Et je pense que nous devrions dire que c'est la seule chose que nous devrions viser en tant que chrétiens, ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ. Maintenant, je tiens à vous dire une chose, c'est pas par vos propres forces. Parce que vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Mais la parole, elle purifie. La parole, elle sanctifie. La parole, elle libère. Vous savez, la quantité de sanctification qu'on va chercher dans nos vies, la quantité de purification qu'on va chercher dans nos vies, la quantité de libération qu'on va chercher dans nos vies, eh bien, ça va ensemble avec le temps qu'on passe dans la parole. Dites amen à ça. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas des séminaires qui vont vous délivrer. La vérité vous affranchira, dit Jésus. La vérité vous rendra libre. Moi, je suis entièrement d'accord avec Charles Finney quand il dit qu'on vit dans une société où il y a tellement de sujets de distraction pour un chrétien qu'il n'y a pas le temps d'investir dans la parole. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur, ce n'est pas un imbécile, ce n'est pas un bouffon. Quand on ne prend pas le temps d'investir dans la parole, Dieu ne prend pas le temps d'investir dans nos vies. Parce que la seule façon où Dieu peut investir dans nos vies, c'est à travers sa parole. Et là, quand il arrive des épreuves, on est désemparé, on est découragé, on est désespéré. Pourquoi? Parce que la solution, elle se trouve dans la parole, mais on n'a pas pris le temps de la méditer, la parole. Et peut même arriver au point où on peut risque d'envier les gens du monde qui ont de l'air heureux et qui sont très malheureux. Hein, je vous ai déjà raconté, il y a une dizaine d'années, notre confrère au poste de police qui était le plus joyeux, le plus bouffon, il nous faisait tous rire, les 150 policiers qu'il y avait dans le poste, il faisait tous rire un jour. Il a pris 6 canettes de bière, est allé s'asseoir sur la pierre tombale de son père, il les a bu les 6, puis il a pris son arme de service, il tirait une balle dans la tête. C'était le plus malheureux des 150. Ouais, les gens. C'est vide, là. C'est vide. Sur la digue, il y a des gens qui se moquaient de nous. Hein, je vous disais, ça me passait alléluia, alléluia. Mais quand on réussissait à les accrocher, ouais, on commençait à parler avec. Ah, écoute, je suis en instance de divorce, on est en vacances ici pour savoir si on peut se remettre ensemble, ça va pas être mariage. Hey, les gens, ouais, les masques. Ouais. On sait très bien parce qu'on connaît la vérité. C'est un masque. Mais ici, c'est à l'envers. Les gens, ils sont malheureux. Hey, vous le savez, si vous êtes vraiment converti, avant de connaître Christ, vous étiez malheureux. Vous portiez tous des masques. Tu restes pas vrai? Vous portiez tous des masques. On vous a approché la première fois, vous n'avez pas besoin de Jésus. Vous n'aviez pas vous humilier. Mais après, quand le Seigneur vient gratter dans votre cœur, il vient vous travailler. Hey! T'es heureux, toi? T'es heureux dans ton péché? T'es heureux dans ta misère? T'es heureux dans ta perdition, toi? Hey! Le bonheur, il se trouve là. En Jésus-Christ. Ouais. Il n'y a personne sur la terre qui n'est pas converti qui peut me dire qu'il est heureux. En dehors de Jésus-Christ. Personne. Tout ce que Jésus voulait, c'est de faire la volonté de son Père. Il dit dans Jean 5, 19, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Hey, » Même le Fils en tant qu'homme ne pouvait rien faire de lui-même. C'est pas moi qui l'invente. Hey, s'il était Dieu, il n'y a pas besoin de Dieu. Et là, dans son humanité, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Je vais vous raconter ce qu'un chrétien chinois a déclaré après qu'il eut visité les États-Unis, ainsi qu'un certain nombre d'églises. Il dit ceci, « Je suis complètement bouleversé de voir tout ce que vous pouvez faire sans Dieu. Je suis stupéfait de voir de ce que vous pouvez accomplir. » Mais lui, Jésus disait, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Et il dira à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Moi, je trouve ça extraordinaire, cette règle-là. Dans son 100% homme, Jésus pouvait rien faire sans le Père. Nous, dans notre humanité, on est homme à 100%, en tout cas, je l'espère tous, on est homme à 100%, on ne peut rien faire sans lui. Alors, frère et soeur, on n'a pas besoin de se complexer. Hey, Jésus, viens bouger dans ma vie, viens. Viens, Seigneur, moi, je veux que tu fasses encore des guérisons, des miracles, des prodiges. Je veux que tu manifestes à travers des signes que tu vis à travers moi, Seigneur Jésus. Hey, ça, c'est pas un message encourageant, frère et soeur, ce matin? Hein? Ouais. On a des décisions à prendre aussi en tant qu'Église. C'est béni, à chaque campagne qu'on fait, il y a des gens qui se rajoutent. Vous avez commencé depuis 2005 à inviter des gens à l'Église. Il y a toujours des nouvelles personnes à l'Église. C'est extraordinaire. Hey, il y a des semaines qu'on n'a même plus assez de place ici pour recevoir des gens. Parce que c'est un message encourageant. Mais on n'est pas là pour vendre une salade aux gens, dire, écoute, quitte ta religion, viens dans la nôtre, tu vas avoir bien plus de fun, bien plus de plaisir. C'est pas ça l'Évangile. Comment peut-on parler de l'amour de Dieu si on ne parle pas d'abord que les gens sont perdus dans leur péché? L'amour de Dieu, ne, elle ne vaut rien en dehors de parler que les gens étaient perdus si Dieu les avait pas aimés. Ils seraient pas venus les sauver. Et les gens ont besoin de réaliser qu'ils sont pécheurs. C'est la chose la plus difficile tellement que l'homme a le cœur tortueux d'amener les gens à réaliser qu'ils sont pécheurs. Et moi, j'avais jamais rien fait de mal, moi, avant d'entendre l'Évangile. Hein. Jamais, hein. Jamais. Pourtant, j'ai fait pleurer du monde dans ma vie. Hein. Jamais. Pourtant, j'étais un mouton noir dans ma famille. Hein. Jamais j'avais pensé avoir fait du mal dans ma vie. Jamais. Jusqu'à ce que le Seigneur mette le doigt dessus et me dit, t'es un pourri, mon frère. T'es un pourri, Jacques. Et tu vas aller pourrir en enfer si tu te repens pas de tes péchés, si tu ne reconnais pas que t'es un pécheur. Et je loue le Seigneur qu'il y en a un qui a eu le courage de me prêcher l'Évangile de A à Z. Qui n'est pas passé par-dessus, qui m'a dit la vérité. Parce que je ne serais pas ici au milieu de vous aujourd'hui. Je louerais le Seigneur sans le connaître. Et ça, c'est la pire des choses. De pouvoir s'imaginer qu'on appartient à Dieu, alors qu'on est toujours perdu. Les gens sont émerveillés lorsqu'ils lisent la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais ce que nous avons besoin, c'est une déclaration de dépendance absolue envers Dieu. Il est difficile pour ceux d'entre nous qui avons été élevés dans un pays où règne la démocratie, d'apprécier toute la liberté que nous avons. Mais il est difficile aussi de nous rappeler que Jésus est celui sur qui nous devons nous appuyer. Cela ne signifie pas que nous devons courir derrière lui, que nous devons courir devant lui, mais que nous sommes appelés à marcher à côté de lui, être capables de marcher à côté de lui. C'est ce que le Seigneur vise pour nous. Dans Jean chapitre 5, encore une fois, verset 30, un autre passage, Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Frères et sœurs, combien de fois on entreprend des choses par nos propres forces? Combien de fois nous essayons de régler un problème par nous-mêmes? Et Jésus nous rappelle, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Charles Finney était un avocat. Et dans son bureau d'avocat, il y avait sa Bible. Parce qu'à l'époque, dans les années 1800, les gens sont toujours croyants aux États-Unis. Alors, il y avait toujours sa Bible sur le coin de son bureau. Et quand les gens venaient, il n'était pas converti. Quand les gens venaient, la Bible, il n'y avait pas de problème. Elle avait trouvé la Bible. Il n'y avait pas de problème parce qu'elle apparaît sur son bureau. Et puis, quand il s'est converti, il s'est aperçu que quand il venait à rentrer, il la cachait. C'est intéressant, ça, hein? Avant, il était païen, il était non-chrétien, il la laissait sur la joie, il ne se dérangeait pas. Et là, il se convertit. Moi, il était gêné de montrer qu'il était chrétien. Ça m'est déjà arrivé de me promener dans la rue, moi, avec ma Bible dans les mains, d'essayer de cacher ce côté-là. Je ne voulais pas que les gens sachent que c'est la Bible. Ça vous est déjà arrivé, ça. Le Seigneur n'était pas gêné de descendre sur la plaine et de le chercher. Le Seigneur a fait des réveils à travers Charles Finney et John Wesley. Quand John Wesley a su qu'il y avait honte de montrer qu'il était chrétien, il est allé dans le bois, il a passé une journée à genoux à prier, à confesser son péché. Parce que pour lui, c'était comme s'il avait renié le Seigneur Jésus-Christ d'avoir eu honte de laisser sa Bible sur le bureau alors qu'un païen qui rentrait. Lui, il demandait un conseil. Il dit, Seigneur, tu vas me délivrer de ce péché-là, puis jamais je vais avoir honte de dire, je suis chrétien, je vais me promener avec ta parole. Récemment, les réveils, ça peut être des choses du passé pour nous. Ça s'est terminé là. Et moi, je crois, dans la situation présente, quand vous vivez la vie de, vous lisez la vie de John Wesley, enlevez les années, vous regardez ce qui se passait dans son monde à son époque, et vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous avez juste à changer l'année, à faire une photocopie, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous savez maintenant que quand il y a des gens qui font venir un plombier, un électricien chez eux, ils les payent en nature? C'est de la prostitution légalisée, mais les gens payent en nature maintenant. Moi, je fais 27 ans, je suis chrétien, je suis déconnecté de ce qui se passe dans le monde, mais je tombe des nues de voir tout ce qui se passe dans ce que j'entends, ce qui se passe dans le monde, quoi. J'ai fait des camps chrétiens avec des enfants du monde, il y a des filles de 13 ans qui venaient me voir en larmes, ça faisait deux fois qu'elles se faisaient avorter, quoi. Pour elles, c'était un moyen de contraception. Frères et sœurs, on n'est pas juste là pour bénir et louer le Seigneur parce qu'il nous a épargné ces choses-là. Mais on a un rôle social aussi à jouer en tant qu'Église. Et c'est de demander au Seigneur qu'il nous montre d'aller vers ces gens-là. Comment voulez-vous, après, quand on les récupère à 30, 40 ans, qu'ils puissent être ouverts au Seigneur avec toutes les blessures de la vie? C'est difficile, c'est deux fois plus difficile. Mais maintenant, je vais vous prédire quelque chose. Je ne suis pas un prophète, je vais vous prédire quelque chose. S'il n'y a pas un réveil spirituel d'ici 10 ans, vos enfants vont avoir de la difficulté à marcher dans les rues sans se faire violer. Parce que les jugements dans les tribunaux maintenant ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Ils sont basés uniquement sur le jugement des hommes. La Bible, on les a sortis des tribunaux. Dieu, on l'a foutu en dehors. Maintenant, les jugements se donnent, même aux États-Unis, se donnent sur le jugement des hommes. Alors, c'est très difficile pour un juge qui fréquente des prostituées, quand il reçoit une prostituée devant lui, de la condamner pour prostitution. Et ça fait des scandales au niveau des jugements. Je me souviens pas de son nom, là. Il y en a un là, qui n'a pas longtemps, il a été condamné pour proxénétisme et tout ça, une des maisons de débauche. Ça fait un scandale, la condamnation qu'il a reçue. Frères et sœurs, rappelez-vous d'une chose, il n'y a aucun gouvernement, aucun homme politique qui peut changer ce monde. Il n'y a que l'Église et l'Évangile qu'elle porte. Et vous êtes des porteurs de bonnes nouvelles. Là, je viens de lire une pétition, j'ai reçu une enveloppe ce matin, une pétition là, pour qu'on enlève la grosse mosquée qui va se faire construire ici, pas loin. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi, avec ça. Si on ne veut pas voir de mosquée se planter sur nos rues, qu'on prêche l'Évangile, on va commencer à sortir les mitraillettes pour éviter qu'il y ait des mosquées qui se construisent. Mais non. Moi, le Seigneur me parle. Pourquoi est-ce qu'il y a des mosquées qui se construisent? Parce que l'Église ne fout rien, quoi. Parce que l'Église a prié sur elle-même, elle n'annonce pas l'Évangile. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de secret, quoi. Moi, j'ai fait les cités à Dunkerque cet été et j'ai trouvé que les musulmans étaient très, très ouverts. Ils attendent que les chrétiens les rencontrent. Hein? Et ce qui va se passer, c'est que c'est les musulmans qui vont finir par faire comme à Londres, en plein centre, qui vont islamiser. Hein? Ils font comme nous, ils sont sur la rue et ils prêchent le Coran. Ils prêchent Mahomet sur la rue, sur les trottoirs. Et ça va finir par arriver ici aussi. Et priez Seigneur que vos enfants ne se laissent pas embrigader dans ces choses-là. Et la seule façon de renverser ça, c'est de prêcher l'Évangile. On en est rendu là, frères et sœurs. On en est rendu là. On doit le faire avec amour. On n'est pas là juste pour leur dire qu'ils s'en vont en enfer. On n'est pas là pour leur dire juste qu'ils sont perdus. On est là pour leur prêcher une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a une solution pour les sauver. Et la solution, elle passe par Jésus-Christ. Et quand on a reçu ce Jésus-Christ, il y a une joie et une paix extraordinaire, indéfinissable, qui vient habiter dans nos cœurs. Et c'est cette joie-là, cette paix pour laquelle l'être humain a été aussi créé. Vivre dans la joie et dans la paix de son Créateur et de son Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut transmettre aux gens. Mais ça passe toujours par la croix. Toujours, toujours. Toujours. Sinon, l'Église... Écoutez, enlevez la croix, l'Église devient un club social. Ah, tu fais partie d'un club de billard? Viens chez nous, on a une table de billard à l'Église. Oh, on a du plaisir, on a un tournoi une fois par mois, viens. Hein? Ça ne sauve pas personne, ça. La croix doit toujours faire partie du message. Toujours, toujours, c'est le message évangélique. Toujours. Si vous êtes sauvés, frères et sœurs, c'est à travers la croix de Jésus, non? Votre espérance, elle se trouve là aussi. Il est revenu de la mort à la vie, donc vous savez que si Dieu a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, il a accepté parfaitement ce sacrifice-là. On n'en a plus à faire de sacrifice. Et parce qu'il est revenu de la mort à la vie, Paul nous dit, de la même manière qu'il a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, de la même manière un jour, il va vous ramener de la mort à la vie. Pas facile de dire aux gens qui sont perdus. Je sais que c'est pas facile, c'est un poids. Mais moi, je suis pasteur, j'ai de la difficulté. Mais je sais, je peux pas amener quelqu'un au pied de la croix si je lui parle pas d'abord qu'il est perdu. Parce que quand tu réalises que tu es perdu, tu dis, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Donne-moi la solution pour que je sois sauvé. Que dois-je faire pour être sauvé, dit le geôlier. Quand quelqu'un vous pose cette question-là, c'est parce que vous lui avez annoncé l'Évangile. Vous y avez parlé de son état, de ce qu'il est. Et là, maintenant, il veut vous demander qu'est-ce que je peux devenir? Comment je peux faire pour devenir chrétien? C'est ça. Frère et sœur, c'est le mandat que Dieu vous donne. C'est pas merveilleux, ça? On ne le fait pas parce qu'on a des fois, on a peur d'être persécuté, on a peur de perdre notre réputation. Et pourtant, le Seigneur Jésus a tout perdu quand il est venu. Il a perdu sa réputation. Et vous ne passerez pas à côté, on va se moquer de vous. Cet été, on s'est moqué de moi. Des fois, on doit prendre un certain médicament pour baisser notre taux de cholestérol. Des fois, on va sur une digue, ça fait baisser notre taux d'orgueil. Les gens se moquent de nous et ça fait du bien. Ça fait du bien. Facile, vous prêchez ici ce matin, vous êtes tous des convaincus. Quand tu vas sur la digue, tu as 100 personnes qui te regardent. Là. Ouais. Il n'y en a pas un qui est convaincu que tu dis la vérité. C'est fatigant, hein? C'est fatigant. Mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas attendu qu'il y ait des églises de construites pour prêcher l'Évangile. Il a prêché l'Évangile et là, il a vu des églises se construire. Et c'est le même système aujourd'hui. On est beaucoup trop enfermés dans nos églises pour prêcher l'Évangile. Ça nous sort par les narines, ça nous sort par les oreilles, l'Évangile. Si ce qu'on entend ne nous pousse pas à passer à l'action, c'est pas l'Évangile qu'on entend. Pensez que j'ai pas de la pression, moi, ce matin, pour vous prêcher ça, là? Hey! Il y a le diable qui me tape sur l'épaule, là. Ouais. Pense à ton ministère. Pense à ce que les gens vont dire. Et je réalise de plus en plus, à la fin de ma vie, que, en regardant ce qui se passe en société, que si on prêche pas l'Évangile, il n'y a pas de miracle qui va se passer ici. Nos vieux Polonais vont mourir. Les jeunes vont devenir indifférents et on va finir par fermer cette église. C'est pas juste l'évangélisation, ça prend un réveil dans nos vies. On a besoin d'être réveillés pour être capable de réveiller les autres. Et le réveil, ça passe par le message sans compromis de l'Évangile. Au diable, ma réputation. C'est la sienne que je dois préserver. La sienne. Et lui, il a payé le prix, il n'a fait aucun compromis. Il a dit, moi, je suis prêt à perdre ma réputation pour le nom de chacun. Je suis prêt à perdre ma réputation pour le nom de chacun ici. Est-ce que vous êtes prêt à perdre votre réputation pour que les gens puissent venir à la connaissance de mon nom, la personne de Jésus-Christ? Frères et sœurs, Jésus priait. Et les signes pourquoi il avait besoin de prier, c'est parce qu'il aimait son Dieu. Il vivait une relation étroite avec lui. Elle n'était pas abstraite, elle était étroite avec lui. Et deuxièmement aussi, parce que dans son 100% homme, il savait qu'il ne pouvait rien faire sans l'aide de Dieu. Et c'est la même chose pour l'Église aujourd'hui. Nous sommes tous des êtres humains sauvés par grâce. Et frères et sœurs, sans Jésus-Christ, on ne peut aussi rien faire. Et ça commence d'abord à genoux. Je l'ai dit, le plus grand ministère de l'Église, c'est pas le groupe des hommes, c'est pas le groupe des femmes, c'est pas l'étude biblique, c'est la prière. Amen.